Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal, présenté par Noéla Louzi Toukabambi.
Un communiqué officiel relayé par l'agence congolaise de presse hier précise qu'une délégation de la RDC compte se rendre demain à Luanda en Angola pour répondre à une initiative du médiateur angolais João Lourenço. Mais jusque-là, la composition de cette délégation et ses missions ne sont pas encore connues officiellement. Pour appuyer les efforts tendant à contenir la flambée de choléra au Nord Kivu, le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires des Nations Unies débloque 750 000 dollars américains. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA, l'UNICEF et l'OMS ainsi que leurs partenaires pourront ainsi réduire les risques de propagation de cette maladie. Professeur Jeff Mudimbi est l'invité de ce journal. Il est docteur en sciences politiques et administratives de l'Université de Lubumbashi. Il revient sur les pourparlers de Luanda en Angola. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. La délégation de la RDC compte se rendre demain mardi à Luanda en Angola pour répondre à une initiative du médiateur angolais João Lourenço tendant à relancer le processus de paix violé et saboté par Kigali et ses supplétifs du M23 AFC. C'est en tout cas ce que dit le communiqué officiel relayé par l'agence congolaise de presse ACP hier dimanche. Jusque-là, la composition de la délégation et ses missions ne sont pas encore connues officiellement. Alain Hirung.
Mambusita Sumbu, l'un des conseillers du président Félix Tshisekedi, a remis un message de la RDC au médiateur angolais dont le contenu n'était pas divulgué. En ce qui le concerne, la RDC a toujours répondu positivement à toutes les initiatives de médiation régionale ou sous-régionale, indique le communiqué officiel relayé par l'agence congolaise de presse. Par ailleurs, la situation sécuritaire et humanitaire dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, a été au menu des échanges samedi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa entre le président Félix Tshisekedi et une délégation de la société civile française selon la présidence congolaise. C'est une mission de mobilisation pour montrer que la société civile française est non seulement touchée par la situation humanitaire dans les deux provinces du Kivu, mais qu'elle est aussi prête à se mobiliser aux côtés du peuple congolais, a déclaré Mathias Léridon, chef de la délégation cité par la source.
En prévision du dialogue direct Kinshasa M23 AFC qui pourrait avoir lieu à Luanda en Angola, le Consortium pour la paix et le développement CPD sollicite du président angolais et président de l'Union africaine d'étendre l'initiative du dialogue au-delà du M23 et de l'AFC. Dans une déclaration samedi au siège de RENADEF, Réseau national pour le développement des femmes, le CPD plaide pour la participation des autres voisins et des forces vives de la nation congolaise à ce dialogue pour une paix durable non seulement en RDC, mais également dans toute la région des Grands Lacs, en comptant sur l'apport considérable des femmes de la sous-région notamment. Il faut procéder par une approche holistique des problèmes pour résoudre la crise sécuritaire en RDC et dans toute la région des Grands Lacs. Ainsi pense la coordinatrice du CPD, Marie Nyombozaïna. Elle est avec Jeff Ngoy.
Le consortium affirme que les femmes, les jeunes et les enfants de la République démocratique du Congo et de la région de Grand Lac constituent plus de 70% de la population qui inspire à vivre dans un climat de paix, de sécurité et de cohésion sociale, gage inéluctable d'un environnement favorable au développement pour leur meilleur avenir. Le consortium sollicite de son excellence Monsieur João Lourenço, président de la République d'Angola, de ne circonscrire cette initiative qu'au dialogue direct entre, d'une part, le gouvernement de la République démocratique du Congo et, d'autre part, des délégués de l'Alliance Fleuve Congo et du mouvement M23, car la crise étant multiforme, la participation des autres États voisins, des acteurs politiques nationaux, de la société civile est le gage d'une résolution holistique des problèmes et d'un retour définitif de la paix.
La province de la Tchopo n'a pas besoin des prétendus libérateurs. Ceux qui sont arrivés depuis 1997 ont occasionné plus de 10 millions de morts au pays. Elle n'a nullement besoin de la guerre, mais plutôt de la paix pour son développement et celui de la République tout entière. Et les jeunes doivent s'engager au sein des FARDC en vue de défendre la souveraineté du pays. C'est là, en quelques mots, le message du ministre des Finances samedi lors d'un meeting populaire à la place de la poste à Kisangani. Doudou Roussel Fouamba Yekunde s'est exprimé ainsi dans le cadre de la sensibilisation de la population locale à l'éveil patriotique. Un reportage de Jacques Moukonkole.
C'est un monde innombrable, massé à l'esplanade de la poste pendant plusieurs heures, attendant le message du ministre des Finances, entouré du gouverneur des provinces et du président de l'Assemblée provinciale, ainsi que de quelques députés nationaux et provinciaux. Doudou Fombalikoundé n'est pas allé par le dos de la cuillère pour dérouler son message. Il a commencé par rappeler l'expérience des années 2000 dans la Tchopo, allusion faite à la présence des armées étrangères ayant causé des milliers de victimes dans cette entité, des morts, des blessés, des personnes ayant perdu leurs membres ont été enregistrés, a-t-il précisé, et d'ajouter que l'arrivée au pays des soi-disant libérateurs a engendré plus de 10 millions de morts. Les habitants de la Tchopo ne doivent pas se laisser manipuler ni diviser par des politiciens, a-t-il martelé. Pour cela, Doudou Roussel Fouamba exhorte la population à la vigilance parce qu'elle a besoin de la paix pour la poursuite des travaux de développement en cours. Sans cette paix, tout va s'arrêter, a insisté le ministre des Finances. En vue d'assurer l'intégrité et la souveraineté de la RDC, il exhorte les jeunes à se ranger derrière le chef de l'État en adhérant au FRDC. La paix va revenir notamment par la diplomatie, sinon par la force, a-t-il renchéri. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Toujours dans la Grande Orientale, la société civile Force Vive et les notabilités de la chefferie Mopoy dans le territoire d'Ango, province du Bas-Uélé, plaident pour le rapatriement des enfants de leur entité. Victimes de la LRA, 62 enfants sont internés au camp de transit de Goulou en Ouganda. Dans une correspondance adressée à la présidence de l'ONG Pax Pays-Bas, basée en Ouganda, avec copie aux autorités nationales et provinciales, les signataires de ce document plaident pour le rapatriement de ces enfants à RDC. Le président de la société civile Force Vive de la chefferie Mopoy explique les circonstances de l'enlèvement de ses enfants et plaide pour leur rapatriement. Théophile Zagbina Zeguino a été joint par Jacques Moukonkole.
L'ONG internationale PAX, basée en Ouganda, représentée par Marianne Moore, et l'ONG congolais à Pérou, basée à Farage, représentée par Jean-Claude Malitano, étaient allés démobiliser ces combattants de la LRA dans les camps de Mbog et les camps de Zemio, et ils ont réussi l'opération où on a ramené des combattants LRA avec quelques de nos enfants en Ouganda. Alors, après la promesse de 2024, au mois de mars, que nos enfants seront rapatriés en RDC le plus vite, cette promesse est restée morte. C'est pourquoi nous réclamons aux autorités du pays et à l'ONG PAC qui continuent à protéger nos enfants en Ouganda que nous voulons leur rapatriement et la réunification si vite qu'ils soient dans leurs familles respectives. C'est pourquoi nous avons écrit à toutes les autorités du pays, à commencer par le président de la République, madame première ministre, ainsi que les gouverneurs des deux provinces, Haut et Bas-Uélé, et les administrateurs du territoire, ensemble avec eux, qu'on puisse réfléchir comment on peut booster et arriver à rapatrier nos enfants le plus tôt possible dans leur famille.
En Ituri, la société civile locale de Djougou alerte sur la situation humanitaire préoccupante des milliers de déplacés de Djaïba et de la plaine de Savo qui passent la nuit depuis un mois à la Belle Étoile, non loin des positions des FRDC et de la MONUSCO. Une situation qui se détériore pendant cette période de pluie où des enfants sont exposés au froid et aux maladies. Cette structure citoyenne demande au gouvernement de renforcer les effectifs des militaires pour leur permettre de regagner leur village d'origine qui sont sous la menace permanente de groupes armés. Isaac Remo.
Ces déplacés ont abandonné leurs abris au site de Djaïba proche de Fataki et de la plaine de Savo. D'autres ont quitté leurs maisons, notamment dans les villages de Lindou, Laoudjo, après les attaques meurtrières de février dernier, pour passer la nuit à la Belle Étoile, notamment à Boulou et à la présence des FARDC. Pendant la pluie, leur état est critique, affirme l'hosté civil du territoire de Djougou. Sans couverture et natte, la plupart de ces sinistrés sont obligés de rester debout jusqu'à la cessation des pluies, ce qui risque d'être pire encore pendant la saison des pluies en cours, alerte Gilles Chouba. Les cas de maladies dont l'infection respiratoire aiguë qui dépasse plus de 1000 cas chaque mois au centre de référence de Boulé vont croître, ajoute-t-il. Cette stricteur citoyenne déplore l'indifférence du gouvernement aux souffrances de la population. Elle plaide pour le renforcement des effectifs des militaires pour leur permettre de retourner dans leur village et dormir dans des conditions confortables. Gilles Touba.
cette zone privée doit être abondante à la ville. Maintenant, on va dormir dans la rue comment? On n'a pas de militaires ici. Il n'y a pas de militaires à Fataki, ni à Djaïba.
Ces personnes souffrent également de faim car ils n'ont pas accès à leurs champs occupés par les groupes armés. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans la partie ouest du pays, au Congo central, dans le cadre de l'opération Ndobo, la police nationale a arrêté deux grands fournisseurs de chanvre de la ville de Matadi, dont un adjudant-chef de forces armées de la RDC. 10 sacs remplis de chanvre leur appartenant ont été également saisis. Pour le commissaire provincial de la police nationale, ces deux fournisseurs de chanvre ne sont pas à leur premier forfait. Israël Kantoubakoulou, qui les a présentés à la presse vendredi, invite la population à dénoncer ce genre de personnes. Il met également en garde tous ceux qui s'adonnent à ce genre de pratiques. Le point avec Nana Pluriche Mambo.
Il s'agit de Mavambo Kitchofi alias Muketonga et de Baroume Moïse, adjudant-chef du quartier général de la 12e région militaire. Tous grands fournisseurs du chanvre dans la ville de Matadi et récidivistes. Ils ont été appréhendés chacun avec 5 sacs remplis de chanvre ainsi que des rouleaux de papier de couleur kaki servant à emballer les chanvres vendus en détail. Les commissaires provinciaux de la police qui les a présentés regrettent le fait qu'il y ait certains éléments de force de l'ordre dans l'insécurité que vit la population. Israël Kantoubakoulou.
Chose malheureuse que je suis en train de déplorer, toujours en revenant sur un adage qu'un de mes anciens de l'armée nous disait, si vous voyez l'insécurité persister, c'est que les gens de l'ordre, ils sont dans cette insécurité-là. Voilà un adjudant chef des forces armées de la République démocratique du Congo, il est ici dans ses salles de besoin de vente de cannabis. Je ne sais pas si nous, les agents de l'ordre, nous commençons à faire ça, comment on va éduquer la population. C'est ainsi dénoncer tout ce monde, parce que le maire s'est corrompu par ce genre de pratique. Parce que quand ils prennent leur chambre, ils fument bien, ils prennent les bombées, c'est qu'ils n'ont pas crainte de faire blesser ou de violer une dame d'autrui.
Outre ces vendeurs de chanvre, la police a aussi appréhendé ce vendredi plusieurs présumés malfaiteurs à travers l'opération Ndobo. Matadi, Nana Pluriche Mambu, Radio Okapi.
750 000 dollars américains, c'est l'enveloppe accordée par le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires, CRF, des Nations unies, en appui aux efforts fournis pour contenir la flambée de choléra dans la province du Nord Kivu. C'est ce qu'annonce le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA. Selon OCHA, ce financement permettra à l'UNICEF, à l'OMS et à leurs partenaires d'améliorer l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, aux services d'hygiène et de santé, réduisant ainsi les risques de propagation et garantissant les soins vitaux aux populations affectées. Jude Bilanda.
Ce financement du CERF est une manière concrète de prévenir une épidémie de grande ampleur. Investir dans la réponse et la prévention maintenant sauvera des vies et évitera des dépenses bien plus lourdes plus tard, a déclaré Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire en RDC. Entre janvier et début mars 2025, la ville de Goma est devenue le nouvel épicentre de la flambée du choléra avec 68% des 1846 cas enregistrés sur la période dans toute la province du Nord Kivu. Déjà endémique dans plusieurs provinces du pays, la propagation rapide est favorisée par les conditions de vie précaires des communautés vulnérables confrontées à la violence et à l'extrême pauvreté. La RDC traverse l'une des crises humanitaires les plus complexes au monde, avec plus de 21 millions de personnes ayant de multiples besoins. Depuis fin janvier 2025, les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu font face à une recrudescence du conflit marquée par l'offensive du groupe armé M23. Les affrontements violents ont provoqué les déplacements forcés de centaines de milliers de personnes et ont eu un impact sur la fourniture des services des bases, aggravant les risques de propagation des maladies liées à l'eau, comme les choléras.
Dans la province du Maniema, les habitants du village Kayembe ne peuvent pas communiquer avec des téléphones mobiles. Et pour cause, le chef-lieu du secteur de Bébé Salamabila, situé à 345 km de Kindu, n'a simplement pas d'antenne de téléphonie cellulaire. Le chef de secteur intérimaire qui le dit lance un SOS aux autorités et aux personnes de bonne volonté pour résoudre ce problème. Sauveur Chabani Moussafiri, secrétaire administratif et chef intérimaire du secteur de Bébé Salamabila, est joint par Florence Kizalunga.
Nous avons des besoins vitaux, notamment l'accès à une bonne route, à l'eau potable. L'électricité n'est pas un rêve ici chez nous. Nous pensons que le gouvernement fera de sorte que les gens vivent une réalité. Mais il s'ajoute une autre difficulté très majeure à Kayembe. Nous avons une population estimable à 12 000 habitants adultes pouvant utiliser le téléphone mobile, mais nous n'avons aucune antenne permanente de communication. Pour communiquer, il faudrait se déplacer à 2 km, monter une colline et ensuite accéder maintenant au réseau. Vous savez, dans le monde actuel, nous avons des petits villages qui ont des antennes, mais nous à Kayembe, une grande communauté, n'avons pas une antenne permanente. Nous avons déjà écrit, que ce soit à Vodacom, que ce soit à Airtel, mais sans succès. C'est la difficulté la plus majeure que nous avons soulevée aussi aux autorités pour que les personnes de bonne volonté nous assistent. Nous avons des enseignants qui sont payés par M-Pesa. Il faudrait qu'ils se déplacent à 30 km, soit à Wamaza, soit à Saramabila, pour recevoir leur salaire, avec toutes les conséquences possibles. Les routes qui ne sont plus accessibles et aussi l'insécurité, comme tout le monde les connaît.
L'invité.
La délégation de la RDC compte se rendre demain mardi 18 mars à Luanda en Angola pour répondre à une initiative du médiateur angolais João Lourenço tendant à relancer le processus de paix. Celui-ci pourrait donner lieu à des négociations directes entre le gouvernement et le M23. Quelle chance accorder à toutes ces démarches diplomatiques pour le rétablissement de la paix dans la région des Grands Lacs? Nous recevons dans ce journal le professeur Jeff Mudimbi. Il est docteur en sciences politiques et administratif de l'Université de Lubumbashi. Il est interrogé par Jean Gandou.
Professeur Geoff Modimbi, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jean Gandou.
La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a non seulement condamné l'avancée du M23 soutenue par le Rwanda, mais elle a aussi condamné le soutien par la RDC de FDLR. Et par la suite, elle a recommandé aux deux parties de dialoguer pour une issue pacifique à cette crise. Pensez-vous réellement que ces recommandations soient efficaces pour une paix durable, notamment dans la région des Grands Lacs?
Je pense que ces résolutions-là peuvent connaître un problème sérieux d'efficacité parce que il n'y a pas eu des moyens, des contraintes pour amener les différentes parties à s'engager réellement. Et comme vous le savez, le droit international présente une certaine faiblesse, c'est que c'est un droit qui ne compte que sur la bonne volonté des parties. Alors, cette bonne volonté-là n'existant pas de deux côtés, il est vraiment difficile ici que de telles recommandations puissent aboutir à des résultats escomptés.
C'est vrai que cette résolution n'a pas de pouvoir coercitif, mais nous voyons qu'il y a certaines institutions, certaines structures qui condamnent quand même le Rwanda. Ne pensez-vous pas que cela puisse pousser le pays incriminé à s'allier sur ce qui est attendu de lui?
Il est vrai que ces différentes condamnations-là constituent où nous pouvons les aligner sous l'angle de l'opinion publique. Et comme vous le savez, l'opinion publique agit bien entendu, mais quand nous regardons la nature de dirigeants face à l'opinion publique, pour le cas du Rwanda, nous avons affaire à un gouvernant dominant l'opinion. C'est-à-dire que l'opinion, elle est là, elle exerce une certaine pression, mais le dirigeant fait aussi un effort pour dominer cette opinion et créer de toutes pièces une autre opinion qui lui est favorable.
Et nous savons également que plusieurs résolutions ont déjà été adoptées ou votées au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la RDC, mais sans vraiment que la donne ne puisse changer sur le terrain. Que préconisez-vous pour que cette résolution, la dernière donc, soit efficacement appliquée et qu'elle apporte une solution définitive à la crise qui prévaut dans la région des Grands Lacs, notamment dans l'est du pays?
Je pense que la résolution devrait être accompagnée des moyens de contraintes. Et en l'absence de la bonne foi des parties, je pense qu'il n'y a que des moyens contraignants qui peuvent amener les gens ou les parties à se plier à la résolution qui a été adoptée.
Moyens contraignants, vous pensez à quoi?
Bon, c'est pratiquement les sanctions, notamment, qui sont des moyens auxquels la communauté internationale fait souvent recours.
Après les refus catégoriques du gouvernement de Kinshasa de négocier avec les M23, donc Kinshasa vient enfin d'accepter qu'il y ait un dialogue direct avec ce groupe rebelle sous la médiation de l'Angola. Pouvons-nous espérer enfin voir la fin des hostilités quand on sait que tous les leaders du M23 sont condamnés et d'autres croupissent sous le mandat d'arrêt?
D'abord, quand on s'engage dans une discussion ou encore dans une négociation, on ne peut pas y aller tête inclinée. C'est que la RDC y va avec un point de vue qui constitue pratiquement ici sa force. L'année de même aussi du M23.
C'est lequel?
Alors, pour la RDC, le fait déjà qu'il y ait de résolution condamnant le Rwanda et le M23 constitue une force pour le pays. Mais pour le M23, les portions des territoires conquis dans l'est du pays constituent aussi une force pour ce mouvement-là. Alors, chacun y va en position de force.
Et donc, il faudra qu'il y ait des concessions.
À coup sûr, il faudrait qu'il y ait des concessions pour qu'on arrive à une solution mutuellement acceptable. Même quand aujourd'hui, la RDC accepte de négocier avec le mouvement M23, je ne pense pas que ce soit de bon gré. Donc, en faisant une analyse minutieuse, on peut s'imaginer qu'on veut imposer à la RDC ce qu'il convient d'appeler la paix des puissances. C'est-à-dire, entre deux belligérants, s'ils n'arrivent pas à s'accommoder, alors il y a une puissance étrangère qui s'impose, qui donne un coup à l'un comme aussi à l'autre, les obligeant ainsi de faire quoi ? De s'accommoder, de trouver une solution mutuellement acceptable.
Enfin, que pensez-vous de la démarche des églises catholiques et protestantes, mais aussi la position de l'opposition politique congolaise ?
C'est pratiquement ici deux démarches diamétralement opposées. Parce que pour les églises, il faudrait que l'on arrive à la négociation. Mais ce point de vue-là n'est pas partagé par l'opposition. L'opposition en RDC, d'abord, elle est plurielle. Il y en a qui demandent carrément que l'on refasse les élections ou que l'on ne puisse pas négocier et que l'on attende directement en 2028. On ne voudrait pas que le président de la République puisse se présenter parce qu'il aura ainsi consommé ses deux mandats.
Jeff Modibé, je vous remercie.